De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben, je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, nous n'avons pas encore pu voir le Terminator et Sarah Connor dans ce qui serait un ultime épisode de la saga. On a évidemment évité le film des Chevaliers du Fiel, mais on a pu voir quelques films attendus. Et toi, notamment Marine, tu as vu un préquel.
Oui, alors pas forcément, enfin c'est pas forcément une bonne nouvelle, hein. J'ai vu La Vérité si je mens, les débuts, et j'ai vu également une reprise, enfin j'ai revu le célèbre film de Jacques Doré, La Piscine.
Et toi, Manu, un film de zombies, mais pas celui qu'on attendait, c'est-à-dire pas le Romero qui ressort en salle.
Et ni Zombieland 2, en fait, qui sort le 31 octobre, mais un petit film australien qui s'appelle Little Monster. Et puis je vous parlerai aussi du nouveau film de Kiyoshi Kurosawa, Au bout du monde.
Et quant à moi, je vous parlerai du dernier Ken Loach. Ce sera l'occasion d'écouter ce qu'il a dit à Cannes, où son film était présenté en compétition officielle. Et puis je vous parlerai aussi du dernier film de Eric Toledano et Olivier Nakache. Leur film, c'est Hors Normes. Ainsi débute Cinérama.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Et croyez-moi, ce ne sera pas long.
Sergio, à gauche, elle arrête pas de te mater, là.
Excuse-moi, ce serait pas Serge Benamou?
Ça va pas changer.
La vérité, mademoiselle, il changera jamais.
C'est la vérité,
mademoiselle. Hey, la vérité.
Ah, la vérité, si je mens.
Alors j'imagine que vous vous rappelez de Yvan, Serge, Patrick et Dove, les personnages de La Vérité si je mens. Eh bien les producteurs se rappellent très bien de vous aussi, puisque 17 millions de spectateurs ont été voir les trois premiers opus de cette saga, même si j'ose pas trop employer ce terme, parce que ça fait un peu Star Wars. Le premier opus, si vous vous rappelez bien, est sorti en 97 et il a été suivi par deux autres La Vérité si je mens, dont la qualité baissait au fur et à mesure, comme c'est souvent le cas. Alors comment faire lorsqu'on a une intrigue et des personnages usés jusqu'à la corde, mais que l'on veut quand même essayer de faire un film pour empocher quelques millions? Eh bien on fait un préquel, c'est-à-dire que l'on raconte le passé des personnages, ce qui s'est passé avant l'histoire. Les comédiens du film, Vincent Elbaz, Richard Anconina, José Garcia, sans doute conscients qu'il ne serait pas bon pour leur image de donner une suite à leur aventure, ont donc laissé leur place à quatre acteurs issus de la jeune génération et pour le coup inconnus du grand public pour nous raconter les débuts de La Vérité si je mens.
Attends, je crois pas, c'est ta caisse ça ?
Bah ouais, quoi, je suis un patron, faut bien que ça se voit.
Prendre un appartement, mais pourquoi ? T'as rencontré quelqu'un, c'est ça?
Je te le dis tout de suite, c'est pas la peine de compter sur nous.
Je financerai pas un bésodrome pour mon fils.
Ouh, Dave!
Elle est bonne, sa mère.
C'est pas sa mère.
Ah bon?
Oh là là, mais comment je l'ai niqué! Je l'ai retourné comme une crêpe, je serai un peu plus à pleurer sa mère! J'ai même cru qu'elle allait me filer la mention! Ah.
On suit donc quatre personnages relativement sans intérêt, faut le dire. Patrick Abitbol, interprété par Johan Manka, qui tombe amoureux d'une jeune fille de bonne famille. Yvan, son associé, qui se rend compte qu'il met leur vidéoclub en faillite à cause de son train de vie. Serge, qui est gros, donc forcément ridicule et maladroit. Et Dove, qui veut à tout prix devenir vendeur. On est d'accord, les enjeux dramatiques sont assez minces, voire plutôt très pauvres. Réalisé par Michel Mouns et Gérard Bitton, ce qui signifie quand même qu'ils se sont mis à deux pour réaliser ça, donc c'est encore moins pardonnable. Le film a déjà l'énorme désavantage de faire deux heures, ce qui est beaucoup trop long pour une comédie, car déjà, peu de cinéastes arrivent à garder le bon tempo aussi longtemps, et surtout, c'est beaucoup trop long pour un film raté, dans lequel il ne se passe rien. En fait, toutes les situations du film sont ringardes, au sens où on ne rit plus de ça depuis très longtemps. On ne rit plus du fait qu'un mec de 18 ans couche avec une nymphomane mariée de 40 ans. On ne rit plus d'un lycéen qui invente des faux bulletins de notes à ses parents. On ne rit plus non plus du fait qu'un jeune homme se fasse martyriser lors de son service militaire. Tout cela appartient à un humour, mais complètement révolu. Néanmoins, deux acteurs sortent leur épingle du jeu, c'est le cas de le dire. Audrey Dana et Gilbert Melki qui revient finalement dans ce nouvel épisode. Le premier, La Vérité si je mens, avait un intérêt, celui de rire avec bienveillance d'une communauté très particulière, à savoir les Juifs du Sentier. Il y avait même une dimension sociologique, même si elle était évidemment parodique. Et d'ailleurs, à l'époque, le film avait été un peu compliqué à monter parce qu'il levait certains tabous par rapport à cette communauté. Dans ce nouvel opus, les intrigues s'entrecroisent sans véritable talent d'écriture. Les comédiens sont très mal dirigés et il faut le dire, on s'ennuie. En même temps, le film ne surfe pas non plus sur une vraie nostalgie qui aurait pu être un matériau intéressant, puisque le film se passe dans les années 80. Ça aurait pu être un matériau intéressant pour faire un film vintage. rappelons les bases de la comédie. Il y a bien sûr toutes sortes d'humour différents, hein, mais il y a quand même quelques bases à tenir pour réaliser une comédie réussie. Il faut des dialogues efficaces, il faut des comédiens drôles et il faut un certain sens du rythme. Tout est une question de montage, d'enchaînement des répliques. C'est le timing, le juste timing du comédien qui va, un simple exemple, faire qu'un regard à tel moment va rendre une situation drôle ou pas. Et c'est précisément ce que les réalisateurs n'ont pas réussi à saisir dans ce nouvel épisode de La Vérité si je mens. Et pourtant, le film était réalisé par Michel Mouns qui avait écrit le premier justement épisode de la saga, mais clairement ici, rien ne prend. Et le film, le drame, pardon, du film, eh bien, c'est qu'il n'est même pas divertissant. Moi, je n'ai pas esquissé un demi-sourire et c'est le cas de toute la salle. Donc, la vérité, n'y allait pas, quoi. Voilà.
Merci, Marine. Cette fois-ci, eh bien, on passe à plutôt deux bons faiseurs de comédie. C'est le duo Éric Toledano-Olivier Nakache, intouchable. Ils reviennent au cinéma avec Hors Normes.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
Oui, oui, oh, ça va.
Et si on te demande comment tu es venu ?
En métro.
En passant par quelle station ?
Saint-Lazare.
Et ensuite ?
Port de Champéret.
Yes !
Je vais tout déchirer.
Ben, j'espère bien. Enfin, pas tout quand même. Hein.
Éric Toledano et Olivier Nakache, le duo de réalisateurs qui a flirté il y a 8 ans avec les 20 millions d'entrées, avec Intouchables et De Retour. Et ils mettent encore en scène une pathologie. Alors ce n'est plus la tétraplégie, mais l'autisme, à travers deux associations dont la mission est d'accueillir des jeunes patients autistes dont plus aucune institution ne veut. Les deux réalisateurs s'inspirent d'un homme qui a porté à bout de bras, hein, l'une de ces associations et dont le rôle est interprété par Vincent Cassel. Il a comme compagnon de route Reda Kateb, un alter ego qui œuvre dans une autre association qui, en plus de l'accueil, fait de la formation. Alors l'idée, c'est de former des jeunes des quartiers pour leur donner un nouveau cap. Une idée lumineuse, mais non sans problème. Alors si on entre dans le détail, on a déjà deux ouvertures de films, hein, les autistes et les jeunes en réinsertion. On pourrait ajouter eh bien, un troisième volet, car si on cerne nos deux personnages principaux, l'un est juif, son association est ouvertement juive, il porte la kippa, mais cette association ne fait pas de prosélytisme. Et puis l'autre, Reda Kateb, eh bien, joue le musulman qui n'a pas l'air d'être bien pratiquant. Mais tous deux font fi de ces différences religieuses, poursuivant un même but, en tant que travailleur social, soit être au service des autres, donner du sens au rapport humain dans un monde où l'individualisme est conquérant. Alors sur cette couche d'humanisme, les deux réalisateurs mettent également un vernis explicatif, didactique, montrant avec application la difficulté de ce travail au quotidien, avec d'un côté les autistes et de l'autre côté eh bien, les jeunes en réinsertion. Ils placent également deux inspecteurs des services sociaux chargés de mettre de l'ordre dans ce désordre qui est malheureusement voulu par le pouvoir politique qui, faute d'argent, eh bien, renvoie les moins désirables vers ceux qui les veulent encore en tolérant l'absence de diplôme ou de cadre bien défini pour eh bien, les encadrer.
Le diagnostic, c'est quoi ?
C'est un autisme particulièrement sévère. J'ai eu l'assistante sociale. Il est mineur, elle demandera le placement judiciaire.
Ça nous laisse combien de temps, ça ?
Environ 15 jours.
Je vais trouver une solution.
Cette association répond aux besoins dans l'urgence. Elle accepte des patients que la société refoule ou qui semblent impossibles à améliorer.
Pourquoi depuis 15 ans, les médecins, les hôpitaux m'appellent tous les jours sur mon portable pour savoir si on peut accueillir encore d'autres enfants ?
Au-delà du drame social agrémenté de moments de comédie bien placés, alors cette comédie ne se joue pas seulement avec les encadrants, mais également avec les autistes, notamment l'un d'entre eux, Joseph, particulièrement attachant, hein, outre le fait qu'il veuille régulièrement frapper sa mère et que le fait de le verbaliser suffise à l'écarter de ce mauvais geste, eh bien, il n'arrive pas à prendre son métro sans tirer le signal d'alarme, ce qui donne l'occasion d'un running gag rythmant le film, comme c'est le cas également eh bien, avec le désert amoureux que traverse le personnage de Vincent Cassel, à qui tout le monde veut recaser une liaison. Donc, au-delà de ce drame social, eh bien, les deux réalisateurs accordent un vrai point de vue sur leur sujet. On ressort de Hors Normes non seulement avec des questions, mais aussi avec des éléments de réponse. Or, pour autant, les réalisateurs ne convoquent pas une posture documentaire. Ces spécialistes du feel-good movie parviennent à embellir un sujet qui ne l'est pas, hein, au premier abord. Alors, non seulement au travers des personnages qui traversent le film, avec des séquences et des dialogues précis, mais aussi au travers d'une mise en scène épaulée par une lumière qui donne à cette comédie sociale eh bien, vraiment une belle tonalité. Disons que la lumière vient autant de l'image que des individus qu'on nous présente.
La plupart des encadrants ne sont pas diplômés.
Vous connaissez beaucoup de diplômes qui préparent à se manger des droites toute la journée. L'alternative, tu la connais ? C'est la fermeture.
Est-ce que je peux mettre ma tête contre ton épaule ?
Oui, allez, vite fait. Allez, viens.
Le duo Éric Toledano et Olivier Nakache est un redoutable faiseur de cinéma populaire au très bon sens du terme, capable de faire tenir en un seul film eh bien, une histoire crédible, un sujet social et politique, un mélodrame doublé d'une comédie. Hors Norme est dans les salles depuis le 23 octobre, tout comme Au bout du monde de Kyoshi Kurosawa, qui suit une japonaise en Ouzbékistan.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Il est toujours intéressant lorsqu'un réalisateur sort de sa zone de confort, se confronte avec un genre apparemment éloigné de ses thèmes de prédilection. Alors dans Au bout du monde, nul fantôme extraterrestre ne vient perturber un récit délocalisé quelque part en Ouzbékistan, permettant à Kiyoshi Kurosawa de renouer avec la veine réaliste du magnifique Tokyo Sonata, sans doute un des sommets de sa filmographie. Alors, veine réaliste, c'est vite dit, tant Au bout du monde ne cesse de surprendre au fil d'une narration filandreuse, tentant des ponts, non pas entre des genres, mais des atmosphères, des tons différents. Le film suit de près, mais avec une distance nécessaire, l'excursion exotique d'une animatrice télé, Yoko, interprétée par la pop star Atsuko Maeda, déjà présente dans un autre Kurosawa, The Seven Code, pour une émission populaire au Japon. Alors, une femme enfant qui joue à l'ingénue en s'extasiant bêtement sur tout et rien dès qu'elle est filmée pour préserver une image codifiée, mais qui en réalité s'avère détachée, indifférente au monde qui l'entoure. Elle est censée pour son métier se rapprocher des autres, d'une culture étrangère, mais de cette expérience, elle n'en tire rien, totalement absorbée par son narcissisme et sa phobie maladive et disproportionnée des gens. Alors, une phobie qui se retrouve décuplée loin de son univers citadin. L'équipe de tournage ne vaut guère mieux, totalement auto-centrée sur leur travail, incapable d'écouter les autres, regarder les paysages, l'environnement. Elles pourraient tout aussi bien d'ailleurs filmer leur projet, leur émission de télé, dans n'importe quel recoin du monde, ou même au Japon, ça ne changerait absolument rien. Kiyoshi Kurosawa, avec une subtile virulence, délivre un pamphlet politique doucement subversif, une critique en creux du mode de vie consumériste d'une partie de la population japonaise, ayant perdu, on va dire, une part de leur humanité. Alors, loin de la caricature redoutée, opposant de façon manichéenne, monde moderne, monde rural, façon l'aurore, le réalisateur de Cure ne se fourvoie pas dans un jeu de massacre cynique, observant avec mépris des gens méprisants. Non, il est au contraire, on va dire, paisiblement empathique, suivant le périple de Yoko, cette jeune femme, mal dans sa peau, qui cherche au fond l'amour, qu'elle pense illusoirement approcher par sa relation avec son idylle au Japon, mais bute constamment face à des névroses et son absence de compréhension. Elle se change devant les autochtones, se change littéralement de vêtements, je veux dire. Sans se soucier des mœurs et traditions du pays, elle décline l'offre d'une vieille dame lui ayant préparé une spécialité de la région. Elle fuit la police locale, alors dans un moment assez drôle, en panique, comme si sa vie était en danger. Comme une fugitive en fait. Elle bifure, contourne les autres, incapable d'échanger le moindre dialogue autre que fonctionnel. Son angoisse finit même par nous contaminer par fragments, rappel de l'étrangeté surnaturelle du cinéma ambivalent de Kurosawa. Alors la sagesse provient d'un personnage annexe qui tente de faire le lien, Telurne, un guide et traducteur ouzbek qui se lance dans un monologue sur sa passion pour le Japon. Alors son intérêt et son amour pour un autre peuple que le sien, petite voix intérieure du cinéaste, constituent en somme la discrète touche engagée d'Au bout du monde qui offre à l'héroïne une issue de secours afin de se reconnecter au monde grâce à deux séquences qui, paradoxalement, flirtent avec le fantastique et l'onirisme. Alors dans la première, une sorte de rêve éveillé sorti d'un film d'Antonioni, Yoko traverse le corridor de l'opéra de Tashkent, je crois que c'est ça, passe de pièce en pièce, le temps se retrouve suspendu dans cette trajectoire envoûtante et elle se met à chanter dans un élan imaginaire l'hymne à l'amour. Alors la seconde, qui reprend le principe de la comédie musicale dans un style volontairement kitsch, Yoko, en pleine nature, semble réconciliée avec le monde. Elle lève la tête, regarde devant elle et sourit enfin. Mais là encore, il ne s'agit peut-être que d'un leurre, d'un rêve, l'espoir secret d'une jeune femme perdue dans son imaginaire, espérant redevenir ce qu'elle était, recoller les morceaux et sortir de cette dépression qui l'empêche littéralement de communiquer autrement que par son travail. Kiyoshi Kurosawa, en changeant de registre, continue d'explorer en creux la crise identitaire qui s'empare d'une génération de Japonais aliénés par leur travail, leur vie d'intérieur, leur déshumanisation progressive, broyée par la machine capitaliste. Alors ce film à connotation sociale et politique n'est jamais empêtré par son discours, grâce toujours à la mise en scène précise et inventive qui ne donne jamais les clés en main et prouve avant tout que le cinéma est un art visuel, une machine à penser en perpétuelle réinvention et qu'un cadrage n'est pas une image. Il porte en lui toute une réflexion issue de l'esprit d'un cinéaste. Il y a d'ailleurs quelque chose de très très fort dans son cinéma. Dès qu'il filme un plan, il y a des changements de plan dans le même plan grâce à la lumière en fait, qui est à chaque fois différente. Voilà, et ça fait quand même du bien de voir des films d'aussi bonne qualité.
Au bout du monde de Kiyoshi Kurosawa, en salle depuis le 23 octobre, il y a un monde, hein, justement, entre Ken Loach et Kiyoshi Kurosawa. Ken Loach qui présente l'ubérisation de l'économie dans Sorry We Missed You. Et ce sera l'interview de cette émission.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Certains attendent le dernier Woody Allen comme on prend une tisane. D'autres guettent le dernier Ken Loach, soucieux de voir comment le cinéaste britannique va dépeindre le système capitaliste. Alors, Sorry, We Missed You, présenté à Cannes, hein, où il n'y a rien eu, mais a été solidement applaudi. Alors, il faut dire qu'il avait remporté la Palme d'Or 2016. Eh bien, Ken Loach s'emploie à mettre en scène l'ubérisation de notre économie et les dernières méthodes de gestion de temps de travail permises grâce aux outils numériques. Alors, autant le dire tout de suite, le constat fait par Ken Loach et son scénariste tombe juste. Le cinéaste britannique prend à bras-le-corps son sujet avec une certaine habileté en s'intéressant, comme toujours, eh bien, aux classes populaires. Il nous place aux côtés d'un travailleur, Ricky, la quarantaine. Alors un type qui sait faire plein de choses de ses mains, mais qui en a marre de recevoir des ordres et veut être son propre patron. C'est pourquoi Ricky, eh bien, décide de devenir auto-entrepreneur pour une société de livraison de colis. Alors il n'en sera pas salarié, oh non, mais sera payé en honoraires sans cotiser à rien. S'il bosse dur, il aura plus de commandes, plus de livraisons, plus d'argent et pourra donc enfin devenir propriétaire d'une maison. Cette maison nous ramène à la famille. Alors une famille dans laquelle on trouve la mère, une femme aimante, affable, auxiliaire de vie, qui veut bien vendre sa voiture et prendre les transports en commun pour que son mari achète la camionnette qui leur donnera une petite facilité financière. Alors de quoi éduquer évidemment leurs deux enfants plus sereinement ? Oui, mais voilà, nous sommes dans un drame social. Ainsi, Ken Loach nous montre les dommages collatéraux que ce nouveau visage du capitalisme accueilli à bras ouverts provoque au sein de cette famille de Newcastle. La famille qui aurait pu être un rempart va être mise à rude épreuve. Ken Loach laisse mesurer comment, eh bien, le capitalisme a continué lentement sa mue, toujours au détriment des plus précaires, et comment il se pare de beaux atours, entendez par là, la fameuse société numérique, et cette société qui enfonce mieux ceux qui dévissent. Alors ici, tout sonne vrai, hein, le boulot épuisant, la famille, la sale gueule du caporal qui fait office de manager. Le réalisateur sait aussi apporter de la tension dramatique, nourrir le récit pour le clore avec justesse. Peut-on être déçu par un Ken Loach ? Sûrement pas celui-ci. On écoute le réalisateur britannique qui était donc présent à Cannes. C'était lors de la conférence de presse où nous étions également.
J'ai fait des tas de boulot. Bétonnage, plomberie.
C'est vous deux ?
J'ai tout fait.
La raison de ce début est que lorsqu'il parle de son travail, il suggère peut-être que c'est un travail qui pourrait être celui de nombreuses personnes. De nombreuses personnes dans le public, par exemple, ont travaillé dans le bâtiment, ou un travail manuel. Peut-être que la moitié de la population a le même CV. Donc on présente les choses de façon générale avant de rentrer dans le spécifique.
Il y a toujours quelqu'un sur ton dos, tu vois.
On a du retard à rattraper, en route.
Je préférerais bosser tout seul, être mon propre patron.
Avant de commencer, clarifions quelques détails, si tu veux bien.
Le travail en général a changé depuis ma jeunesse. Dans le temps, on nous disait, si on a une compétence, on trouvera un emploi pour la vie et on aura un salaire pour la vie pour faire vivre sa famille. Les choses ont changé de façon inexorable. Nous sommes passés de la sécurité à l'insécurité. Les gens peuvent être recrutés et licenciés du jour au lendemain. Les gens ont des contrats et les employeurs ne s'engagent pas du tout quant à la charge de travail ou au salaire. On travaille par le biais d'agences aujourd'hui, sans sécurité. Un peu comme dans le rôle de Chris, on est un auto-entrepreneur. Il prend tous les risques et l'employeur se trouve dans une situation tout à fait agréable dans laquelle il n'a pas à prendre de risques. Et c'est le travailleur qui s'exploite lui-même. Donc c'est l'idéal pour les grandes entreprises qui ne prennent aucun risque. Et c'est le travailleur qui doit prendre le risque et frayer son chemin. Et il n'y a même pas d'un besoin d'un patron pour donner des coups de fouet. C'est le travailleur qui s'exploite lui-même. Ce n'est pas l'échec du capitalisme, mais c'est le capitalisme qui continue à fonctionner comme il l'a toujours fait. Et nous avons essayé de voir l'impact de tout cela sur la relation au sein d'une famille.
Tu ne travailles pas pour nous, tu travailles avec nous.
Je suis payée à la visite.
Et vas-y, scanne-le.
Gagné. Yes.
Ils suivent tous les colis, tu piges. Si t'en mets un dans l'abri de jardin, ils savent où il a tiré.
Il y a une espèce de molosse avec des crocs énormes. Je crois qu'il m'a arraché un morceau du cul.
C'est ça qui décide qui reste en vie et qui meurt.
Vous pouvez prendre ce colis pour Monsieur Campbell?
Non, je préfère pas.
Je suis pas payé si je livre pas.
Je pense qu'un film comme ça, c'est une voix de tant un cœur. Il ne faut pas exagérer le pouvoir du cinéma. Depuis Daniel Blake, l'aide que l'État donne aux gens vulnérables n'a pas évolué. Le gouvernement ne donne pas plus. Il y a toujours la même cruauté. On utilise les mêmes armes. Il y a des bons alimentaires qui sont donnés aux gens dans le besoin.
That's increased in the last year alone
et
by 18%.
Tout cela a augmenté de 18% en un an. Toute cette charité a augmenté de 18% en un an et est rendue indispensable aujourd'hui. Donc les choses ne changent pas, elles ne peuvent pas changer.
Jamais j'aurais cru que ça pourrait être si dur.
Je te colle une nouvelle amende de 100 livres.
Ce soir, je vais rester avec ma famille, donc non, pas aujourd'hui. Et moi, je vous le dis, déconnez pas avec ma famille!
C'était super cette journée.
Les gens vont au travail avec une jambe cassée, par exemple, ou avec un bras cassé. Et il y a eu un cas dans lequel quelqu'un n'est pas allé à son rendez-vous à l'hôpital pour traiter son diabète parce qu'il devait aller au travail. Son diabète s'est détérioré. Il n'est toujours pas allé à ses rendez-vous à l'hôpital et il en est décédé. Il ne pouvait pas s'arrêter de travailler à cause de sa dette et de ses problèmes financiers. C'est le système qui l'a tué.
Le Vindaloo. Il faut être un homme pour ça, pas un petit garçon.
Ok, d'accord.
Oh, putain.
Des zombies, un film plutôt drôle, c'est Little Monster dont tu vas nous parler tout de suite Manu, un film qui est présent seulement dans les cinémas CGR, c'est bon, assez important pour le dire, c'est une exclusivité et ensuite il sera disponible en VOD, donc en direct vidéo à compter du 31 octobre.
Et maintenant,
Cinérama,
tout est parfaitement en ordre.
Lieutenant, pourquoi on est là?
Les zombies, comme toujours. Ils sont rapides ou ils sont lents?
Lents.
Tant mieux, je préfère ça.
Étrange sortie technique pour ce deuxième long métrage d'un jeune réalisateur australien, Abe Forsyth, présenté en ouverture du festival de Sundance et ovationné par un public conquis. Alors non pas que l'on s'attendait à une sortie en grande pompe, mais tout de même, une plus large diffusion semblait méritée, d'autant que la présence de la craquante Lupita Nyong'o, impressionnante d'ailleurs dans Us, ajoute une plus-value à Little Monster, film de zombies qui sort un peu de la routine, de par son postulat de départ alléchant et ses personnages attachants. A commencer par Dave, l'anti-héros classique, musicien raté, qui, une fois n'est pas coutume, n'a rien du geek insupportable, récitant en roue libre tous les films de morts-vivants et d'infestés de la Terre. Il s'agit d'une bonne idée de présenter un jeune loser, égoïste et irresponsable, mais immédiatement sympathique, silhouette immature, sortie tout droit des comédies produites par Judd Apatow. Alors après une rupture logique et très drôle lors des 5 premières minutes endiablées, Dave tombe sous le charme de l'institutrice de son neveu, Miss Caroline. Il se porte volontaire pour être accompagnateur lors d'une excursion pédagogique dans une ferme ludique qui ressemble à une sorte de parc d'attractions rural. Mais proche de la ferme, un virus s'échappe d'un camp militaire transformant tout le monde en zombie. Premier soulagement aussi, aussi bien pour les protagonistes que pour les cinéphiles, les pauvres victimes se déplacent lentement à l'ancienne. Petit rappel vintage des chefs-d'œuvre de George Romero. Face à ce léger problème, Miss Caroline, comme Roberto Benigni dans La vie est belle, imagine un délicieux stratagème pour rendre la situation supportable, présenter la terrible menace d'invasion comme un jeu éducatif afin de protéger l'innocence de ses chères têtes blondes. Alors autant ce procédé devenait très gênant dans le film italien, transformant parfois un camp de concentration en camp de vacances, autant ici, l'idée s'avère cocasse et pertinente, justifiant ainsi des séquences vues mille fois ailleurs.
Qui se souvient comment on joue à ça? Eh bien, ces drôles de personnes là-bas sont les chats.
On va tous crever.
Est-ce qu'on va tous crever, mademoiselle Caroline?
Non! Ça fait partie du jeu.
Les zombies ne sont pas réels.
Mon cul, ils sont pas réels.
Si tu as de la joie, ton cœur tape dans tes mains.
Mon travail consiste à vous protéger.
Cocktail savoureux de comédie burlesque, de rom-com et de films d'horreur, Little Monster remplit son contrat grâce à la fluidité d'une mise en scène élégante où la caméra n'est pas atteinte de la maladie de Parkinson et le montage ne subit pas les assauts intempestifs de crises d'épilepsie. Au contraire, le film baigne dans une atmosphère paisible et euphorique, servie par des décors naturels rafraîchissants et une très belle photographie mise en valeur par un scope somptueux. Évidemment, les militaires sont complètement débiles, mais plus incompétents qu'antipathiques, les enfants charmants comme tout, et la romance entre Dave et Caroline va sortir gagnante de ce combat ludique et sanglant contre la horde d'infectés. Alors on retiendra dans ce joyeux bordel la séquence où le chef des armées analyse avec le plus grand sérieux le plan de la ferme pédagogique destinée aux enfants, ou encore lorsqu'une gamine lassée par la situation ne veut plus participer à ce jeu stupide parce que les zombies ont tous l'air faux. Alors l'humour plutôt fin, débarrassé des tics référentiels inhérents au genre, tient dans ce décalage gentiment excentrique de cette comédie hybride qui ne lésine pas sur les effets gore pourtant, surprenant vu l'esprit bon enfant, et porté par d'excellents dialogues. Alors rien de révolutionnaire ne perturbe un récit très linéaire, mais Little Monster se situe nettement au-dessus du lot d'un univers très codifié qui s'est épuisé rapidement à force de répétition et de manque d'innovation. Pas sûr d'ailleurs que le prochain Zombieland, qui sort très bientôt d'ailleurs, soit supérieur à cette production indépendante australienne, diffusée donc uniquement, on le dit au départ, dans quelques salles du CGR et bénéficiant d'une sortie VOD le 31 octobre. En fait, c'est pour Halloween.
Le couple Delon et Romy Schneider dans une piscine, on voit bien de quoi il s'agit. C'est le film de Jacques Deray, à nouveau dans les salles depuis le 23 octobre.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinerama.
Je vous adore. Vous êtes la joie de mon cœur.
C'est une reprise. Donc oui, la piscine de Jacques Deray ressort en salle, ce film de 69 qui est sans doute l'un des plus iconiques du cinéma français. Tout le monde connaît les célèbres images de Alain Delon et de Romy Schneider qui s'embrassent humides au bord de la piscine. Il ressort donc en copie restaurée, de quoi apprécier la beauté assez surnaturelle de ces quatre interprètes. Au cœur de la piscine, un couple, Marianne et Jean-Paul, qui ne va pas tarder à prendre l'eau lors de l'arrivée de Harry, dont on ne sait pas vraiment s'il a entretenu dans le passé une relation amoureuse avec Marianne, jouée donc par Romy Schneider. Il est bien accompagné de sa fille, interprétée elle par Jane Birkin, dont c'est l'un des premiers rôles au cinéma.
J'ai pas envie de me lever. Il y a des jours qui ne me réussissent pas aujourd'hui, par exemple. Non. Passer à demain et qu'on n'en parle plus.
Eh ben, reste couché. Tu veux que j'étire les rideaux?
J'ai trouvé Harry bien tendre avec toi hier soir.
Il est toujours tendre avec les femmes. C'est agréable, tu sais. Et sa fille, à propos.
Quoi, sa fille?
Oh, rien.
Comment tu la trouves?
C'est à toi qu'il faudrait demander ça.
Elle est curieuse.
Si je comprends bien, je fais ma valise et je m'en vais.
Attends un peu quand même.
S'en suivra un crescendo érotique et dramatique autour de Marianne et des deux hommes, avant que la plus jeune des deux femmes ne devienne la victime de ces jeux pervers. Le film, dans lequel règne une tension érotique très cinégénique, a été fermement censuré lorsqu'il a été diffusé à la télé en 1975, notamment à cause d'une célèbre scène dans laquelle Romy Schneider se fait fouetter le dos par Alain Delon. C'était assez à l'époque pour donner une réputation plus que sulfureuse au long métrage, qui est quand même loin d'être ultra subversif, et qui finalement s'apparente surtout à une sorte de thriller solaire dans lequel l'été attise à la fois l'érotisme ambiant et les jalousies, nous faisant rapidement comprendre que personne n'en sortira indemne. En dehors de cette scène vaguement sadomaso, tout dans le film est sous-entendu, assez subtil, caché dans des ellipses, ce qui le rend d'autant plus cruel. Au-delà de l'interprétation sans faille des comédiens, Romy Schneider, par exemple, est totalement magnétique. Je crois que c'est réellement l'atmosphère qui est inégalable et qui, moi, m'avait marqué lors de ma première vision du film. Récemment, on a pu voir un remake de La Piscine que moi, j'avais trouvé assez intéressant, renommé pour l'occasion A Bigger Splash de Luca Guadagnino. Alors, c'est un film qui est très clivant. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Je pense pour la simple raison que je n'étais pas au courant de l'histoire et que je n'ai fait le lien avec le film de Jacques Deray que tardivement. A Bigger Splash a eu le bon goût de prendre ses distances avec l'histoire initiale en gardant la piscine comme le lieu qui va catalyser, exacerber les tensions violentes, sexuelles et familiales. Mais dans le film de Guadagnino, le rôle de Marianne a été volontairement étoffé. Il est tenu par Tilda Swinton qui incarne une rockstar forcée de rester muette pour préserver sa voix. Et je pense que cette complexification du rôle féminin central et peut-être ce qu'il manquait à la piscine de Jacques Deray. Moi, en tout cas, je vous encourage à voir ou à revoir les deux qui sont chacun à leur façon très intéressants.
Vous avez fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Non, si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
La semaine prochaine, encore une interview. Ce sera celle d'Yvan Attal que nous avons rencontré pour le film Mon chien stupide. Et toi, Manu, tu auras deux DVD dont tu veux nous parler.
Oui, je vous parlerai donc de deux sorties de films de Yves Boisset, Canicule et Folle à tuer, qui ressortent donc dans une collection qui s'appelle Make My Day.